tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Maureen.
Salut tout le monde.
Et d'ATH.
Salut, salut.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous reparlerons de Gridfall, de Skywind, de Solasta Crown of the Magister, de Shenmue 3, de Stadia. On enchaînera ensuite sur Artifact, le déni, hein, n'est-ce pas, du créateur de Magic. On parlera de l'enquête fleuve de chez Kotaku, hein, une enquête assez édifiante sur les conditions de travail des employés de Treyarch. Et enfin, on terminera par une petite démonstration, un petit cours magistral. Vous allez voir, on va vous montrer comment vous défendre contre les lootbox. Il y a une petite vidéo qu'on m'a montrée cette semaine. Merci Jim Serling, n'est-ce pas ? Ça a été très, 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 très instructif. Et je me suis dit qu'il fallait absolument vous faire partager ça. Voilà, messieurs, nous allons donc commencer l'actualité de cette semaine par une date. C'est Gridfall, hein, suivi du dossier, n'est-ce pas ? Nous en avions déjà parlé, nous avons désormais une date. Je rappelle, Gridfall, c'est un RPG qui a pour originalité de se dérouler dans, on va dire, une espèce d'Amérique coloniale réimaginée, réinventée, avec un peu de mystique, etc. Ça sortira donc le 10 septembre. Après l'été, écoutez, toujours aussi intéressé pour ma part. On va enchaîner sur un mode qui est annoncé depuis un bon moment, mais qui a sorti un superbe trailer. Je vous invite à le regarder et surtout à l'écouter. C'est le dernier trailer de Skywind, qui, ma foi, est un vrai régal auditif. Je suis toujours autant impressionné par le travail qui a été abattu, ne serait-ce que la partie chantée et réorchestrée du thème de Morrowind. Moi, je dis, messieurs, dames, chapeau.
Franchement, c'est du très très bonne facture. Quand tu vois que ça, c'est amateur, tu te dis, bah, ok, les gens ont vraiment step up. Hein.
Bon, je sais pas s'il sortira un jour, hein. Je vous cache pas, mais...
Ça fait des années qu'on en parle.
Hein. Vivement. Ensuite, je vais maintenant vous parler d'un petit jeu français qui a été annoncé. Et là, on aura peut-être un peu plus de matière à discuter, n'est-ce pas, messieurs ? C'est Solasta Crown of the Magister. Alors, Solasta Crown of the Magister, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, c'est un jeu français, n'est-ce pas ? Hein ? Pour être honnête, on s'en bat les couilles, hein, c'est pas pour ça que je vous en parle. Je vous en parle surtout parce que ils ont annoncé un petit truc qui, moi, me plaît bien. Alors déjà, petite originalité, je trouve, c'est que c'est un jeu, déjà, on va pas jouer un héros. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un personnage principal, entre guillemets, vous allez vraiment jouer une team d'aventuriers. Ça, déjà, je me dis, d'un point de vue narratif, ça peut être très intéressant. Bon, en plus de tout l'impact que ça va avoir sur les mécaniques de gameplay, bien évidemment. Et surtout, c'est un jeu où, déjà, la gestion de la lumière aura de l'importance, mais aussi où la verticalité sera au cœur du gameplay. Et ça, ma foi, mis à part peut-être dans Divinity Original Sin 2, où il y avait ce genre de choses, mais encore, je trouvais que c'était pas trop exploité. Là, si vraiment ils trouvent deux, trois petites choses originales pour faire en sorte que, bah, on exploite vraiment la verticalité durant les combats, etc. Bah, fortiori dans un RPG, tu sais, où tu peux mettre des pouvoirs un peu craqués qui permettent, je sais pas, moi, par exemple, de péter un pilier ou se trouver un mec pour lui faire se casser la gueule dans le vide. Je sais, mon imagination part en vrille, hein, comme d'habitude, mais vous voyez, moi, j'imagine tout de suite des possibilités comme ça et ça me fait envie, voilà. C'est vrai qu'on a tendance à rester sur certains acquis, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de RPG de ce style qui sont en vue isométrique, qui sont assez figés, etc., on pense pas trop à exploiter la 3D, et ma foi, qu'ils partent là-dessus, moi, je dis oui. Maureen.
Ouais, c'est vrai que de prime abord, quand tu regardes le visuel du jeu, tu te dis que, bon, bah, c'est un RPG méga classique, inspiré de Donjons et Dragons, etc., mais c'est pas parce que t'as l'air classique que tu peux pas essayer des choses.
C'est
ça, c'est souvent l'étape à laquelle certains développeurs s'arrêtent. Tu te dis, bon, bah, j'ai un univers qui est cool, qui a un visuel qui claque, j'ai juste à mettre des mécaniques de gameplay qui sont hyper classiques, et puis ça va faire un bon jeu. Alors, certes, ça peut très bien faire un bon jeu, par contre, est-ce que ça va faire un jeu inoubliable ? Je ne sais pas. Du coup, moi, je suis toujours un petit peu d'avis de, bah, de proposer de nouvelles choses. Donc si ça peut être le cas avec Solasta, moi ça m'intéresse.
Bah après, en plus, il n'y a pas besoin que ce soit des choses absolument innovantes, qui vont bouleverser le genre, etc. C'est en rajoutant sa pierre à l'édifice que finalement, on finit par construire des choses grandioses, quoi. C'est-à-dire que peut-être que ça va être raté. Mais peut-être qu'en faisant ça, ils vont inspirer un autre studio qui reprendra l'idée, qui l'améliorera, etc. Et c'est comme ça qu'on progresse. C'est en itérant à partir de ce qui existe déjà que, au final, on finit par innover, quoi. Donc moi, je suis client. Voilà.
Ouais, moi le seul truc qui m'inquiète par rapport à ce jeu, c'est est-ce que les gens vont comprendre que c'est pas juste un ersatz de Divinity.
Mm-hmm.
Enfin, quand tu regardes le visuel du jeu, t'y penses très très clairement. J'espère que les gens passeront outre.
Bah après, ça peut être un argument marketing, hein, parce que Divinity, je pense aussi, que les gens l'ont poncé, tu vois. Bon, par contre, je suis pas sûr que ce soit coop. Et c'est vrai que si les gens s'attendent à Divinity et que derrière ils voient que c'est pas un jeu coop, ouais, c'est un scandale. Moi, je voudrais ce jeu-là. Il faudrait que vous fassiez le jeu que moi je veux. Hein. Voilà. Bon, bah, vous connaissez la ritournelle qu'on voit souvent sur Steam ou ce genre de choses. Ou... Enfin, moi, c'est le truc, tu sais, j'ai du mal avec les gens qui n'acceptent pas qu'on ne fasse pas un jeu pour eux, en fait. Qu'un développeur te raconte des histoires, ok, t'as le droit de te plaindre, y a pas de souci, c'est normal. Par contre, qu'un développeur fasse ce qu'il a envie, qu'il fasse pas ce que toi tu as envie, je suis désolé. Bon, ok, moi y a des développeurs qui sortent plein de jeux qui m'intéressent pas, je vais pas leur dire non, mais faudrait que vous fassiez comme ça parce que moi je veux ça. Hein. Attention.
Ça se passe de plus en plus hein, avec les jeux, mais on va pas digresser parce que sinon ça va nous prendre 2 heures.
Oui, ouais, mais voilà. Ça se passe encore plus avec les jeux à financement participatif en fait. C'est-à-dire que qu'un éditeur sorte un jeu comme ça, qu'il a lui-même souhaité éditer, en général, les gens, ils la ramènent pas trop.
Ouais, tu vas pas souvent sur les forums de Steam, ATH, hein.
Non, mais par exemple, si c'est une suite d'une licence qui était ultra connue, qui change de direction, bah là, les gens vont pas trop apprécier en général, ou soit les gens ont financé un jeu, et du coup, bah, ils peuvent se permettre de dire, oui, bah, moi, j'ai contribué à financer, donc, je voudrais qu'il y a telle feature, ou telle chose. Mais si c'est une nouvelle licence qui sort de nulle part, les gens en général, ils vont pas dire ouais, mais attends, moi je voudrais que plutôt que ce jeu, y a plus de parties beat 'em all que de parties enquête par exemple. Et c'est vrai que
alors, c'est malheureusement, pour... j'ai déjà vu ça.
C'est... Dans une nouvelle licence.
Oui, t'es dans une nouvelle licence, mais après c'est vrai que c'était des accès anticipés.
D'accord. Ouais.
Ouais,
oui,
souvent.
Il y a l'aspect quand même développement du jeu, tu vois. C'est vrai que les gens ils se disent, je peux mettre mon feedback, donc voilà.
Ouais.
Mais des fois il y a des gens qui sortent de là, qui se prennent pour Jean-Michel designer, tu vois. Encore que tu mettes ton petit grain de sel, il y a pas de souci. Il y a une certaine manière de présenter des choses, si tu veux.
Ouais.
Genre, hey connard, est-ce que tu pourrais pas faire le jeu comme moi je veux, hein, merci.
Ouais, mais c'est même pas ça. C'est genre que les gens donnent un retour sur un accès anticipé ou
c'est normal.
Voilà, c'est normal. Mais après, comme tu le dis, il y a la manière de demander les choses. Tu vas pas dire ouais, vous faites pas ça, bah moi je lance une campagne de boycott sur Twitter ou enfin, tu vois, des trucs de ce genre-là. Et c'est ça le problème, parce que t'as le droit de donner ton avis, bien sûr. Tant que ça reste dans la limite du correct, il y a pas de souci. Et surtout, voilà, ne pas
et
aller dire.
Et accepter aussi que des fois
on
t'écoute pas, quoi. Parce que au bout d'un moment, faut faire des choix aussi. C'est ça de faire du développement.
Bien
peut-être
sûr.
Que le développeur aussi il a des idées, qu'il a une vision plus globale que toi sur ce qui marche et ce qui marche pas, et qui veut amener le jeu dans une certaine direction qui colle pas avec ce que toi tu veux en tant que joueur, quoi, tout simplement.
Bah d'ailleurs, c'est ce que Hideo Kojima avait dit un jour. Si tu veux faire un jeu qui pourra surprendre les fans et des nouveaux joueurs, il faut jamais écouter le retour des gens par rapport à ça. Tu peux écouter par exemple des retours critiques sur tel aspect du gameplay et tout ça, mais pas dans la direction que devait prendre le jeu. Ça c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Et en plus de ça, tu te brides de ta créativité, tu vois.
Oui, il faut qu'il y ait une vision directrice au départ.
C'est ça.
Bon, alors messieurs, je vous propose qu'on enchaîne. On va maintenant reparler vite fait de Shenmue 3. On va pas y passer 3 heures non plus.
Ouais.
Vous savez tout le mal que je pense de Shenmue 3, mais il se trouve qu'ils ont pris une bonne décision. Enfin, c'était même pas une bonne décision parce que j'ai pas envie de féliciter les gens de faire ce qui est normal. C'est-à-dire que ils vont rembourser les backers qui se sentent floués et c'est tout à fait normal. C'est ce qu'il fallait faire. Ils l'ont fait. Ok. Voilà. Par contre. Je tiens à noter qu'apparemment, c'est Epic qui va débourser de sa poche.
Ouais.
C'est-à-dire que Tinsune est parti sur Twitter pour dire « Très cher développeur, rassurez-vous, même si vous faites un gros fuck à vos backers, nous, on sera là pour les rembourser derrière. » Très clairement, Tinsune, il est là pour faire en sorte que des gros projets Kickstarter viennent sur sa plateforme pour inciter les gens à débarquer. Il n'y a pas de souci. Voilà.
Ouais.
Et par contre, c'est normal que ça soit Epic qui rembourse, vu que c'est eux qui sont partis démarcher pour avoir l'exclusivité sur leur store. Je trouve ça tout à fait cohérent que ça soit eux qui remboursent. Ils ont voulu l'exclusivité, bah tu rembourses les mécontentements.
Alors, par contre, je tenais quand même à rassurer Tim. Hein. T'auras pas ce problème à l'avenir, hein, parce que bon, vu ce que vous avez fait, il y aura plus de gens qui financeront des Kickstarter de toute façon. Donc.
Mais c'est pas cette affaire-là qui a creusé définitivement Kickstarter, parce qu'il y avait eu pas mal d'arnaques auparavant. Là, on va dire, c'est la petite cerise sur le gâteau,
c'est
qui
les...
vient en...
les coups de marteau finaux dans le cercueil, tu vois. C'est...
Oui, c'est vraiment ça. C'est le dernier clou dans le cercueil, hein, très
c'est
clairement.
C'est ça. Bah, on va dire que ce genre d'affaires, ça va pas renforcer la confiance des gens envers Kickstarter. Mm. Moi, je pense que les gens, en fait, ils en ont marre. Parce que c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. Notamment toi, Tyran, t'as financé auparavant beaucoup de projets sur Kickstarter. Et même toi, au bout d'un moment, tu t'es dit, voilà, j'ai pas envie qu'on me prenne encore pour un con, entre guillemets.
Oui, non, mais après, tu sais, je savais que quand tu t'as investi là-dedans, dans ce genre de truc, tu sais qu'il va forcément y avoir des connards dans l'eau, tu vois, c'est obligé.
Ouais.
C'est juste que, par contre, j'ai pas envie de cautionner un système où désormais, on te dit très clairement que, de toute façon, merci pour l'argent, mais cassez-vous, bande de connards, quoi, enfin... Voilà, la confiance, elle est plus là. C'est la base du système, et la base du système, bah, c'est casser la gueule, quoi. Voilà.
Ouais, mais ce qui est déplorable dans cette histoire, c'est que on aurait pensé que les plus grosses escroqueries viendraient de petites personnes qui ne sont pas très connues dans le monde du jeu vidéo. Shenmue 3, c'était le plus gros projet sur Kickstarter. On voit qu'il y a cette affaire-là. Et quand c'est des gros qui, eux, ont une image de marque auprès du public, ça entache encore plus la réputation de Kickstarter. Et du coup, je pense que les gens qui ont envie de financer... bah, il se méfie de plus en plus, et au bout d'un moment, je pense que on va arriver à quelque chose où ça va plus donner beaucoup d'argent. Parce que avant, rappelez-vous, les années précédentes, chaque année, Kickstarter engrangeait de plus en plus d'argent. Et ça fait depuis quelques temps qu'on n'a pas eu, un chiffre comme quoi l'année précédente a été battue. Alors que, en général, c'est plutôt bon signe pour
c'est
dire.
C'est même
que...
pas question de battre l'année précédente, là. C'est question d'avoir un Kickstarter, ne serait-ce qu'à plus d'un million de dollars, à part le jeu de cul, là, qui, a fait de l'argent parce que c'est un jeu de cul, voilà, et que le cul, ça vend. Voilà, ça ne marche plus, Kickstarter.
Ouais.
Ouais, c'est pour le jeu vidéo, c'est fini.
Bon, messieurs, je vous propose qu'on passe vite fait sur Stadia. Apparemment, il y a une exclue qui s'appelle Guilt. Je la connaissais même pas, donc voilà, c'est dire à quel point la communication a été fabuleuse sur le sujet. Hein. Le prochain jeu de Tequila Works, bah, ne sera peut-être pas une exclue. Finalement, ils sont peut-être pas suicidaires a priori. et la vraie news, hein, c'est que visiblement les jeux qui seront vendus sur Stadia seront aussi chers qu'ailleurs, hein, parce que après tout, oui. Hein, bande de connards, on vous offre la possibilité de jouer à des jeux en 4K sur votre vieux PC tout pourri, hein, vous devriez déjà être content. Bon, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais pour ma part, il est hors de question que j'achète des choses que je ne possède pas.
Bah, très clairement, parce que Stadia, contrairement à Steam ou à GOG ou ce genre de choses-là, c'est du streaming, en fait. C'est-à-dire que tu ne possèdes rien, même pas de fichier de jeu. Tu actives une clé qui te permet de jouer, mais si t'as pas la connexion suffisante pour pouvoir streamer le jeu, bah, t'as payé le jeu pour rien, en fait, parce que tu peux pas savoir sans avoir commencé à tester le service. Bon, après, je vais pas rentrer dans les offres où
non,
il y aura
c'est
des...
c'est surtout, demain des... tu déménages, t'as plus la fibre, ah bah tu peux plus jouer à ta bibliothèque de jeux. Mm. Voilà.
Voilà, alors que chez Steam et les autres, c'est différent. Et c'est ça qui pose problème, c'est-à-dire que on s'attendrait au moins à ce que le prix soit en conséquence.
Bah, il faudrait voilà un abonnement tout simplement. Enfin, voilà, ça marche exactement. Partout comme ça pour tous les services de streaming. Il y a que dans jeux vidéo où non mais attendez, oh là, vous allez payer les jeux hein, et en plus vous allez payer les DLC, les microtransactions qui vont avec. Hein. Faut pas déconner non plus quoi.
Bah, tant qu'on peut presser les gens comme des citrons, hein, s'ils en demandent, je vois pas pourquoi ils s'en priveraient.
Bah écoutez, messieurs, je pense que nos auditeurs ont compris que nous ne sommes pas clients. Voilà.
Ah, clairement pas, non.
Bon, par contre, un jeu sur lequel Mordrain aurait pu être client, hein, mais visiblement, c'est pas son truc, c'est Artifact. Alors, Artifact, il y a Richard Garfield, hein, je rappelle, qui est le papa de Magic, hein, qui a fait une sortie récemment. Bon, c'est un peu comme les politiques, tu vois, les joueurs, ils ont pas compris, on leur a pas assez expliqué, ils sont un peu cons, quoi, ils ont pas compris, voilà, ils ont pas compris. Bon, admettons, voilà, les joueurs sont un peu cons, ils ont pas compris, il fallait leur expliquer. Par contre, il y a quand même un petit point dans toute son intervention, là, où je voudrais revenir, c'est celui où il dit qu'en gros, Artifact est un des jeux compétitifs les moins chers. Et de ce que j'ai vu, en termes de données, il a raison. Maintenant, j'aimerais lui préciser une chose, c'est que l'immense majorité des gens ne jouent pas au compétitif. Et que la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un jeu que tu dois payer 20 euros et qu'il y a une tonne de microtransactions derrière. Et ça, dans un environnement où tu as des jeux de cartes qui sont quasiment tous gratuits, et où, en plus, tu as des joueurs qui en ont de plus en plus marre de voir des jeux payants qui se permettent d'avoir des microtransactions de free-to-play, ça pose un souci. Moi, c'est mon point de vue de consommateur lambda qui ne jouera jamais à haut niveau, parce que, bon, voilà, je me connais, je sais que je suis une quiche au jeu de cartes, hein, donc c'est clairement pas moi qui vais dépenser des centaines d'euros pour avoir un deck compétitif, quoi. Et malheureusement, pour que ton jeu y marche, bah, il faut que, au moins, il y ait une base de joueurs qui soit solide, quoi. Et, bah, c'est pas le cas de ton jeu, quoi. C'est-à-dire que ton jeu, les gens, ils arrivent, ils voient 20 balles, ils disent le jeu, il est pas gratuit, en plus, il y a des microtransactions. Merci. Au revoir.
Ouais, il en sait quelque chose, hein, sur ces histoires de jeux chers, pas chers, compétitivement, hein, parce que, bon, il a créé Magic, alors clairement, pour jouer compétitivement à Magic, il faut y aller. Ce qui est rigolo, c'est que, dans le même temps, en fait, il y a un autre jeu de cartes créé par Richard Garfield qui, lui, cartonne. Pour le coup, c'est un jeu physique, hein, qui s'appelle Keyforge. Et le concept, en fait, c'est t'achètes un deck, randomisé, en fait, tu sais pas ce qu'il y a dans le deck. Chaque deck est unique. Et pour le coup, ça, c'est beaucoup plus noob-friendly, puisque bah t'as juste à connaître les règles du jeu, t'achètes ton deck, et puis tu découvres ce qu'il y a dedans, et puis tu te jettes dedans, quoi. Bon, bah alors certes, si ton deck que t'as chopé et qui est random, il est pas ouf, bah tu l'as un peu dans le cul. Mais dans Artifact, t'es là, et tu dis, bah ouais, mais il faut que j'achète en plus tous ces trucs de microtransactions. Surtout qu'en plus, Artifact, c'est un jeu où bah t'as pas qu'un seul deck, enfin, c'est un peu compliqué. Moi, personnellement, Artifact, j'y ai jamais cru. Pas du tout étonné en fait que ça soit cassé de cul.
Le problème d'Artifact, c'est que tu vois le jeu, c'est super intimidant.
C'est ça.
Pourtant, Artifact, il était bien parti au début, parce que décembre 2018, il y avait quand même 46 000 joueurs simultanés. C'était parti sous de bonnes auspices, mais trois mois après, ça s'est retrouvé à 1000 joueurs simultanés. Donc, il y a quand même un grand écart assez fou. Alors après, moi, j'ai jamais joué Artifact et je vois peut-être même pas à quoi ça ressemble.
Et puis, on va pas prétendre ici être des experts en jeu de cartes, hein, très honnêtement.
Non, clairement pas. Hein.
Moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que d'un point de vue global consommateur, c'est que les gens ont essayé le jeu. Donc, il y a eu quand même pas mal de monde. Et je pense pas vraiment que c'est la faute des joueurs, parce que les joueurs ont donné sa chance au jeu, comme je l'ai dit. Maintenant, c'est juste que le jeu ne fonctionne pas et du coup.
Moi, ça, pourquoi il me dérange le discours de Garfield, c'est que encore une fois, peut-être que sur tous ses arguments, il a raison. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un problème dans son jeu, parce que si ce qu'il dit est vrai et que dans son jeu, finalement, par exemple, il n'y a pas tant de RNG que ça, est-ce que il n'y a pas quelque chose dans le jeu qui est foiré dans la conception, qui fait que le jeu n'envoie pas des signaux positifs à ses joueurs, tu vois, tout simplement. En tout cas, ce qui me gêne dans son discours, si tu veux, c'est qu'en gros, il dit, c'est un peu comme un politique, si tu veux, un politique qui te sort une loi foireuse, dit, ouais, non, on n'a pas assez expliqué aux gens, etc., comme ils sont un peu cons, il faut qu'on réexplique. Non, c'est pas, il faut réexpliquer. T'as foiré un truc quelque part, remets-toi en question, essaye de regarder ce qui ne va pas, et reviens avec une meilleure copie. C'est tout. C'est pas en faisant du marketing que tu vas corriger un game design foireux, quoi. Et c'est pareil avec son modèle économique. Il a oublié un truc, c'est que les gens n'acceptent pas de payer pour un jeu et qu'on leur dise derrière, ouais, non, mais en fait, ce que t'as payé là, c'est un peu de la merde. Maintenant, tu vas ressortir la carte bleue pour repayer pour autre chose. Ça ne passe pas. C'est tout. Donc, soit ton jeu, tu le fais payant et à ce moment-là, t'as tout. Soit tu le fais gratuit. Mais à ce moment-là, t'es pas non plus obligé d'être une pute sur le modèle de microtransaction. Parce que c'est ça le truc aussi, c'est que j'entends l'argument venir, tu sais, qui dit « Ouais, mais à ce moment-là, faut faire comme Hearthstone. » Bah non, je suis désolé. Il y a des free-to-play qui sont très réglo. T'es pas obligé d'enculer les gens pour faire de l'argent, quoi. Merde.
Ça rejoint ce que j'allais dire, en fait. C'est que, bon, très clairement, les jeux qui sont basés sur des cartes, sur l'aléatoire, sur les microtransactions, sur des choses comme ça, c'est des jeux qui sont conçus de toute manière pour te pomper ta thune. Donc, on peut pas vraiment le pointer du doigt lui, sans c'est pointer ça. Du doigt tous les autres. Ils font tous ça, à des niveaux différents, à des degrés différents, mais pour moi, le cœur du problème d'Artifact, c'est pas que les gens n'ont pas compris, c'est que c'est un jeu que les joueurs ont décidé ne valait pas le coup de rester sur le long terme, et à l'évidence, c'est
parce
ça qui s'est passé.
Parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui râlent sur Hearthstone, par exemple.
Bien sûr.
Mais ils restent quand même. Donc ça veut bien dire, tu vois, que même s'ils râlent, il y a quelque chose qui les fait rester. Là, les gens, ils ont râlé, mais ils sont pas restés. Donc,
Il y a bien eu un truc fondamental qui marchait pas, quoi.
Oui, bah comme tu disais, l'exemple parfait, je pense que c'est toi, Tyran. Je voulais parler avec toi de Warframe. Quand on avait parlé, toi et moi, pas pendant les podcasts, mais en dehors, tu m'avais dit oui, tu avais mis quand même pas mal d'argent dedans. Et au final, le jeu, peut-être que tu l'as payé plus cher qu'un jeu neuf. Mais le jeu t'a plu et t'as voulu, par cette initiative-là, soutenir les développeurs et aussi mettre de l'argent pour te faire plaisir, t'acheter des skins.
Et puis surtout, prorata du temps que j'y ai joué, honnêtement, j'ai pas payé très cher. Hein. J'ai passé plus de quasiment 300 heures dessus, quoi. Donc, FF14 m'a coûté beaucoup plus cher. Hein. Donc,
Ouais, mais par exemple, pour Warframe, quand t'as passé du temps dessus, tu t'es pas dit, putain, il faut sortir la carte bleue pour continuer à jouer.
Et je me suis pas dit, surtout... Merde, j'ai dépensé, quel con, je me suis fait avoir. Ce qui m'est déjà arrivé sur Hearthstone, par exemple. Mm-hmm. Sur Hearthstone, la première fois où je me suis rendu compte que j'avais dépensé de l'argent et que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment raisonnable, j'ai tout de suite arrêté de jouer au jeu. Parce que je me suis dit, là, je suis en train d'entrer dans un engrenage qui n'est pas très sain.
Ouais, ouais, parce que tu avais l'impression d'être pris pour un pigeon, quoi.
Alors, j'irai pas jusqu'à dire que j'avais l'impression d'être pris pour un pigeon, mais en tout cas... Je me sentais pas du tout à l'aise vis-à-vis des achats sur ce jeu, quoi. Bon, Mordren.
Ouais.
Un autre sujet sur lequel on va pas mal parler, je pense, c'est ce qui se passe chez Treyarch.
Alors, c'est la section crunch, hein, parce que non seulement on va parler de Treyarch, mais en plus on va parler de Blizzard.
Bah, si tu pouvais faire un petit package... D'ailleurs, commence peut-être par Blizzard, à la limite. Vous allez voir que... Le discours, il gêne un peu, quand même, quoi. Quand on voit ce qui se passe, c'est un peu gênant.
Alors, donc sur Blizzard, en fait, Mike Morhaime, qui est donc le cofondateur de Blizzard et qui est parti en octobre 2018, rappelons-le, après 27 ans à la tête du studio, a donné une interview à Eurogamer le 27 juin, où il évoque évidemment le crunch et la culture du crunch et comment ça s'est goupillé chez Blizzard, etc. Et il dit, sans aucun faux-semblant, que Blizzard a évolué autour du crunch et que dans les premiers temps du studio, ils ont fait beaucoup d'heures supplémentaires de folie pour terminer les jeux. Et d'après lui, je cite, « Je pense que quand on est un petit studio, le succès de ton prochain projet fait ta vie ou ta mort. Ça nécessite des efforts surhumains, ou du moins ça a été le cas pour nous. » Alors il explique bien sûr que c'est une stratégie qui est pas tenable sur le long terme, mais que ça a permis à Blizzard d'entrer sur les radars des joueurs et que Blizzard étant ce qu'il est à l'heure actuelle, il regrette pas spécialement. Je cite encore, je suis sûr qu'il y a de meilleures façons d'y arriver, mais pour ce qui nous concerne, je ne crois pas qu'on aurait eu autant de succès si on n'avait pas mis tout ce qu'on avait là-dedans. Alors ça, c'est des propos évidemment qui font un peu coup de poing hein, dans le climat actuel. Eurogamer met ça en perspective avec les propos du producteur exécutif et vice-président de World of Warcraft, John Haidt, qui pour le coup, lui, est en poste, qui explique que pour le coup, ça a énormément évolué depuis 5-10 ans chez Blizzard, et que son objectif à lui, c'est de faire en sorte que son équipe, en tout cas sur WoW, soit une équipe qui fasse zéro crunch. Je cite, je pense que très peu de membres de l'équipe finissent par avoir besoin de travailler dans heure sup. Donc voilà, évidemment c'est en train d'évoluer, mais bon, c'est évidemment le discours de devanture, hein. C'est un producteur exécutif qui parle, pas forcément des gens sous couvert d'anonymat, donc on attendra évidemment d'entendre un petit peu plus de la part de Blizzard si jamais il y a des choses qui se passent de ce point de vue-là. Mais voilà, c'est pour remettre un petit peu en perspective ce qui a été dit de la part de certains développeurs chez Treyarch qui ont parlé sous couvert d'anonymat, eux pour le coup, chez Kotaku, évidemment l'inénarrable Jason Schreier qui a encore ressorti une immense enquête hein, sur plus de 11 employés qui ont parlé avec lui des conditions de travail, notamment sur le dernier Call of Duty Black Ops 4, donc celui qui est sorti en octobre dernier. Et là, pour le coup, met en lumière une situation assez ubuesque, notamment le fait que Treyarch ait beaucoup travaillé avec des CDD, des prestataires qui venaient de l'extérieur pour les aider sur ce développement qui a été assez compliqué, hein, parce que pour éviter la concurrence de Red Dead Redemption 2, les directions ont annoncé que le jeu allait être avancé d'un mois. Évidemment, en termes d'emploi du temps, c'est très compliqué à gérer pour les employés et pour le studio en lui-même. Et en plus de ça, la direction avait décidé de tester le mode Battle Royale, qui est évidemment quelque chose de très nouveau pour les développeurs de Call of Duty. Donc ça faisait...
Attends, faut préciser une chose. Ce mode Battle Royale, il a remplacé un autre mode de jeu en réalité.
Ouais.
À savoir qu'il est venu en remplacement de la campagne qui était assez avancée en plus. Et je sais pas si vous réalisez le délire que c'est de demander à une équipe de développer en quelques mois ce qui est un jeu à part entière, en fait, finalement. Ouais. Enfin, c'est délirant.
Et alors, du coup, je parlais de prestataires en contrat avec le studio et aussi des CDD, etc. Ça, c'est un truc qu'on a pas spécialement encore entendu de la part de ces nombreuses enquêtes autour des conditions de travail dans le jeu vidéo, mais là c'est vraiment assez incroyable ce qui s'est passé, c'est que tous les développeurs qui étaient des pièces rapportées entre guillemets au studio de développement étaient tous parqués dans un étage spécifique du studio. Leur parking était à 10 minutes à pied du studio. Ils avaient pas le droit aux places de parking qui étaient les plus proches du bâtiment.
Pestiféré.
Ouais, c'était vraiment ça. Ils avaient vraiment l'impression d'être mis à l'écart de la vie de l'entreprise et que, ils étaient au courant de rien. Genre, bon, on organise une fête. Soit t'es pas au courant, soit t'es invité à y rester 20 minutes parce que bon, t'as quand même du travail à faire et surtout bois pas trop parce qu'il reste encore des trucs à faire.
On précise que ça touchait surtout la QR.
Ça a surtout touché la QA, et alors qui pour le coup a vraiment été pointé du doigt par les développeurs en poste chez Treyarch, parce qu'évidemment à chaque fois qu'il y avait un problème dans le jeu, c'était de leur faute.
Bah, surtout que sur le précédent jeu, il y a eu des fuites qui provenaient de la QA en fait, ouais. Et depuis apparemment, la QA c'est devenu un peu le souffre-douleur quoi.
C'est ça. Et ce qui est assez dingue en fait, c'est que il y a deux équipes de QA. Une équipe qui travaille le jour, une équipe qui travaille la nuit, et pendant les périodes de crunch, en fait, c'est des équipes qui font chacune 12 heures par jour, et donc ils faisaient du 24-24. Et ce qui est assez génial, c'est que ceux qui avaient la chance de travailler la journée, ils avaient le droit à la climatisation, mais ceux qui travaillaient la nuit, on leur coupait la clim, on leur disait que la clim était cassée. On va rappeler quand même que ils travaillent à Santa Monica, hein, les développeurs de Treyarch, donc évidemment, il fait très chaud. voilà, tout ce qui est... Enfin, c'est assez dingue, hein, parce que je vais pas vous faire tout le rundown, mais notamment le fait que le nombre d'heures estimées de travail chez Treyarch, c'est 64 heures par semaine, dans les périodes de crunch, réparties sur des journées de 12 heures du lundi au vendredi, et de 8 heures les samedis, et parfois les dimanches. Et alors, évidemment, il y avait... compensation financière hein, sur ces trucs-là. Mais ce qui est assez ouf, c'est que le studio faisait passer ça comme une faveur de la part du studio à ses employés.
En plus, je tiendrai à nuancer, Morane, parce que tu dis compensation financière pour les développeurs, parce que par exemple,
oui.
Les prestataires, eux, n'ont pas du tout le droit au bonus
c'est vrai.
Que touchent les développeurs. C'est-à-dire que encore le développeur, bon, il sacrifie sa vie, il a un bonus. Bon, personnellement, je vous le dis, hein, je sacrifierai jamais ma vie pour avoir du pognon. C'est clair, c'est net, une vie, on n'en a qu'une. Hein. C'est beaucoup trop précieux pour être gaspillé sur ça, si vous voulez. Mais en plus, tu te dis que des prestats qui se font traiter comme des chiens, qui sont à part dans le studio, qui sont traités comme des étrangers, ils sacrifient leur vie pour des clopinettes. Parce qu'en plus, je crois qu'il y a des histoires sur les salaires qui sont pas top. Genre, ça permet quasiment pas de vivre à Santa Monica. Enfin, c'est... odieux ce qui se passe là-bas, quoi. C'est scandaleux.
Ouais, pour les prestats, il y avait donc pas de congés payés, les jours de maladie étaient décomptés, les pauses étaient chronométrées et non rémunérées. ils avaient tous des badges d'une couleur différente, et ce qui est ouf, c'est que les primes et les bonus qui sont versés aux employés après la sortie d'un jeu, qui sont évidemment assez substantiels, parce que dans le cadre d'un jeu comme Call of Duty, bah c'est basé sur le succès du jeu, hein, et bah ça aussi, ça leur était refusé aux prestataires. Je cite, on voyait certains employés arriver en Jaguar ou en Tesla une fois les primes versées. Ce n'était pas très agréable pour nous. Bah, tu m'étonnes.
Ah ouais, le fondement, il devait avoir particulièrement mal, n'est-ce pas, DH?
Bah, en fait, ces mecs-là, j'ai l'impression que c'est des prisonniers de Guantanamo qu'on a forcé à travailler pour Call of Duty et Treyarch. Parce que franchement, avoir ces conditions-là, c'est quand même assez choquant, surtout en 2019. Mais de toute façon, tant que l'industrie du jeu vidéo aura pas de vraies règles établies, fixes, aux États-Unis, il y aura toujours ce genre de problème qui cause vraiment du tort à tout le monde. Mais alors là, enfin, franchement, je sais même pas par où commencer avec cette histoire avec Call of Duty, Activision et même Blizzard, parce que Blizzard, faut savoir aussi que, vous savez, ils ont sorti l'édition WoW Classic. Et le problème, c'est que il y a eu une très forte demande en France pour avoir des serveurs français. Activision a licencié pas mal d'employés de Blizzard France, ce qui pose un problème justement pour gérer ces serveurs-là. Et du coup, Activision, quand vous faites des bénéfices records, au lieu de licencier des gens comme ça, bah il faut peut-être penser aussi un peu à l'avenir, et peut-être que ces gens que vous n'avez pas besoin à un moment T, faut pas les virer de suite. Et
ATH.
Ouais.
Tu viens de me faire penser à un truc là, j'avais oublié cette histoire, putain. Tu veux savoir le plus drôle? Dans tous les employés qui ont été virés là chez Activision, il y avait des community managers.
Ouais.
Et vous savez quoi? Activision, récemment, a posté une annonce pour recruter des community managers.
C'est pas magnifique.
Tu viens juste de me faire rappeler cette
C'est fabuleux.
Non, mais tu vois,
c'est fabuleux.
Et puis même, tu vois, enfin, j'ai envie de dire les conditions de travail. Les mecs, ils travaillent la journée, ont le droit à de la climatisation. Mais si c'était à la limite du supportable, je suis sûr qu'ils l'auraient même coupé pour eux. Mais les mecs qui travaillent la nuit, ils ont pas le droit à la clim. Déjà, ça, c'est complètement fou.
Bah ouais, attends, y a pas les vrais employés dans les bureaux, quoi. Donc on s'en bat les couilles.
Une entreprise qui génère autant d'argent et de revenus grâce à ses licences, telle qu'Activision, les mecs, ils coupent la climatisation à leurs employés.
Ah bah, surtout, en plus, dans des locaux où t'as des stations de travail partout, mm-hmm. qui génèrent bien de la chaleur, tu vois, et où il fait encore plus chaud que dehors, quoi. C'est une très bonne idée.
Et en plus de ça, les mecs, ils ont même pas le droit à des bénéfices ni à leur part sur leur entreprise. Mais tu vas te dire, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces mecs-là, pour mériter ça? C'est-à-dire quoi? C'est des mecs qui ont été dans le couloir de la mort, où on a dit, c'est soit ça, soit on vous bute, ou soit c'est vraiment qu'Activision, c'est vraiment des enculés de première. Mais enfin,
il y a... ils ont juste voulu travailler dans le jeu vidéo.
Mais t'as pas envie.
Voilà. D'ailleurs, tiens, à propos de travailler dans le jeu vidéo, messieurs les industriels, je sais que actuellement le jeu vidéo ça fait rêver, etc. Mais je vous assure qu'à force de voir ce genre d'histoire sortir, il y a beaucoup de gens qui vont se dire que le jeu vidéo c'est de la merde et qu'il faut surtout pas bosser là-dedans. Bon, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à rajouter, messieurs ?
Bah non, enfin.
Non, bah c'était juste histoire de faire le point. Hein. C'est un peu bon. Bah, le thème au long cours.
Édifiant hein. Que, enfin. Qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute à ça, quoi? Enfin,
ah, mais les mecs, ils vont pleurer pour économiser $2 sur l'heure pour la climatisation de la nuit, quoi.
Ouais, c'est un truc de ouf.
Non, mais si, il y a une dernière chose à dire. Syndiquez-vous, quoi, merde. Syndiquez-vous, ouais, ou ça. Même si vous voulez pas vous syndiquer, brûlez les locaux, quoi. Je sais pas, mais faites quelque chose, quoi. Enfin, faites quelque chose. Vous laissez pas faire, quoi. Moi, c'est juste ça que je peux dire. Ne vous laissez pas faire, putain. Ne vous laissez pas marcher dessus comme des merdes, quoi. C'est pas possible.
Mais ça arrivera, hein. Comme il y a eu au bout d'un moment sur à Hollywood la grève des scénaristes. Je pense que le jeu vidéo, il y aura aussi une tournure comme ça où les mecs, surtout aux États-Unis, parce que c'est surtout les États-Unis qui sont plus touchés. Et après, ça se dérive en Europe parce qu'ils ont aussi des équipes marketing là-bas et même des équipes de développement. La plupart des merdes, ça vient de là-bas et malheureusement, c'est tout le monde qui est touché. Ah quoi. Oui.
Bah forcément, la protection sociale là-bas, tu mets... enfin, eux, ce qu'ils veulent protéger, les gouvernements américains, c'est les entreprises.
Bien sûr.
La santé de l'entreprise. Et qu'est-ce qui fait la santé de l'entreprise? Bah, c'est le travail des gens. Si ces gens-là travaillent plus, l'entreprise se porte bien. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut peut-être changer le focus et se dire, oui, mais bon, si mes employés se portent mal... Au bout d'un moment, c'est une bombe à retardement, si tu veux.
Non, mais on va pas changer pas le focus, Mordred. D'ailleurs, on va faire ça chez nous aussi. Le droit du travail, tout ça, ils vont arrêter de nous casser les couilles. On va les faire bosser comme des esclaves et puis c'est tout. Hein.
Voilà. Bah voilà, c'est ça, c'est ça.
Bon, messieurs, ce moment très joyeux.
Ah oui, là, tu vas nous enfoncer, là.
Mais est-ce que c'est le connard de la semaine ou pas?
J'ai presque envie de qualifier ça de lanceur d'alerte, finalement, parce que lanceur d'alerte malgré lui, tu vois. Parce que tu sens très clairement que le mec assume de faire cracher du pognon aux gens. Non, parce que clairement, quand t'as une présentation où t'as quelqu'un qui arrive qui dit « Bon alors, je vais vous parler d'un truc. Certaines personnes parmi vous vont peut-être être choquées. Si vous voulez, on en parle à la fin. » Genre, tu vois, toutes les saloperies que je vais vous dire, là, la question morale, c'est un peu annexe. Hein. Donc ça en dit long, si vous voulez. Quand la question morale devient optionnelle, alors qu'on te raconte tout un tas de saloperies qui sont franchement édifiantes, c'est que, a priori, je pense que le mec a pas trop de soucis pour dormir la nuit. Hein. Donc, ce monsieur s'appelle Thorulf Jenstrom. C'est le patron de Tribeflame, une boîte qui fait des jeux free-to-play sur mobile. La vidéo dont je vais vous parler là, en fait, je me suis dit, ça serait cool d'en faire une retranscription. C'est une vidéo qui a été portée à mon attention par Jim Sterling, qui a sorti une vidéo récemment où il expliquait pourquoi il en avait plein le cul des microtransactions et pourquoi il passe son temps à rager là-dessus, parce que c'est des saloperies qui font du mal aux gens. Et il citait un exemple, cette vidéo, où il disait « Regardez, toutes ces saloperies qu'on vous fait là, c'est même pas des choses qui sont cachées. Je veux dire, on a même des mecs qui arrivent sur scène et qui s'en vantent auprès de nos compères. Genre, c'est des méthodes qu'on connaît pas. Non, c'est des méthodes qui sont très bien connues. Comment faire cracher du pognon aux gens. Mais bon, comme on est dans le monde d'Electronic Arts, etc., moi j'appellerais ça personnellement le manuel de l'arnaqueur, mais visiblement, on peut pas appeler les choses comme elles sont. Donc du coup, moi, je vais vous appeler ça un manuel de défense contre les forces du mal. Voilà. Parce que là, très clairement, si vous voulez apprendre à repérer quand un jeu essaie de vous niquer, la conférence que je vais vous mettre en lien de ce podcast, sérieusement, allez la regarder, quoi. Bon, maintenant, moi, je vais quand même vous faire un petit déroulé de ce que le monsieur dit, parce que c'est important, et je pense que même pour ceux qui ne parlent pas anglais, il faut que vous sachiez quand même ce qui se dit dans votre dos. Hein. Bon, c'est une conférence qui date, hein. Je suis déçu de ne pas avoir appris ça plus tôt, parce que on apprend des choses très intéressantes. Donc, ce monsieur commence son speech en disant que, bon, la base, quand tu commences ton jeu, c'est de faire en sorte que le joueur il puisse dépenser 1000 balles, comme ça, dans ton jeu. Il faut qu'il puisse dépenser de l'argent.
Hein. Un SMIC, normal.
Il faut que ce soit possible, parce que sinon, tu vas pas faire de pognon. Ça rapporte pas assez, etc. Donc, il faut tout de suite que tu aies un fonds de roulement et que les gens aient la possibilité de dépenser autant qu'ils veulent. Bon, ça, c'est le petit plat d'entrée. Hein. Ok.
Je ne reprendrai pas de dessert.
Ah bah attends, parce que là, on va y aller, j'espère que vous êtes prêts. Hein. D'après lui, il y a quatre catégories de joueurs. Les complétionnistes, les sociables, les compétiteurs et les explorateurs. On va dire que chacun de ces joueurs a des choses qui peuvent les faire dépenser. Exemple, les compétiteurs, ben si c'est pay to win et qu'on leur donne des options de payer pour être plus fort que les autres, ben ils auront tendance à payer. Cependant, le problème des compétiteurs, si tu veux, c'est qu'un jeu trop pay to win, et il a quand même conscience de ça, hein, ça peut faire fuir les gens. Hein, Star Wars Battlefront. Donc, un jeu pay to win, ça peut poser quelques soucis. C'est très difficile à régler, etc. Non. Donc, du coup, ce que vous conseille Monsieur Torbjörn, hein, c'est plutôt de vous tourner vers les complétionnistes. Mm-hmm. Les complétionnistes, c'est bien parce que tu vas pouvoir leur offrir des trucs pour améliorer leur quotidien. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont vouloir tout faire dans ton jeu. Donc, si tu mets des timers, ce genre de choses, tu vois, des trucs qui vont les bloquer, bah, ils auront tendance à sortir la carte bleue, ces gens-là. Hein, parce qu'ils veulent terminer les choses. Ils veulent avancer. Ce qui est un peu chiant, par contre, c'est les explorateurs. Tu vois, les explorateurs, c'est ceux qui veulent un peu de contenu, etc. Aucune équipe ne peut suivre, en termes de contenu, ce qu'il faudrait pour contenter un explorateur. C'est pas tenable sur le long terme. Messieurs Electronic Arts, Activision, écoutez ce monsieur, juste parce que...
Non, l'écoutez pas, l'écoutez,
ce que vous allez l'écoutez faire. Pas. Non, mais je parle de ça par rapport au jeu à service, en fait, où on te dit qu'on va te sortir des contenus régulièrement, etc. Un mec qui vient du free-to-play, qui essaie d'enculer les gens, il vous dit que c'est pas tenable, tu vois, donc... voilà. Et bon, évidemment, t'as les sociables, etc. Alors eux, ça peut être intéressant parce que c'est à eux que tu vas vendre des cosmétiques, etc. Ceux qui vont jouer les fashion, bon, voilà, c'est intéressant. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Comment on fait cracher le pognon ? Hein ? Parce que on a un problème dans les free-to-play, c'est que les gens, ils ont tendance à dire « Non, mais un free-to-play, moi, jamais je vais dépenser de l'argent. Jamais. » Comment tu fais pour que ce mec-là dépense régulièrement de l'argent sur ton jeu ? Eh bien, c'est comme la pêche au gros. C'est-à-dire qu'il faut mettre un appât suffisamment sexy, un deal qui a l'air tellement cool que le mec se dise à un moment donné « Ah non, mais là, quand même, ça a l'air sympa. En plus, c'est pas du tout cher, c'est vraiment une bonne affaire et tout. Je paye. » Et là, on rentre dans la partie psychologique de cette présentation. C'est-à-dire que à partir du moment où un mec a sorti la carte bleue, t'as une barrière psychologique qui tombe et ce sera beaucoup plus facile pour la lui faire ressortir ensuite. Bah oui, parce que, je veux dire, s'il a payé pour acheter un super deal, ça serait con de pas jouer au jeu. Donc il va commencer à jouer, puis il va se heurter aux mécaniques du jeu. Et puis là, il va se dire, bon, c'est un peu chiant ce timer là pour progresser, allez, vas-y, je paye. Après tout, j'ai déjà payé, hein, donc pourquoi est-ce que je paierai pas ? Et puis, si tu veux aller un peu plus loin, au moment où il sera bien accro, tu vois, où ça sera vrai joueur hardcore de ton jeu, là, tu vas lui vendre des consommables, qu'il va acheter régulièrement, parce que c'est des consommables et qu'il en a besoin pour être compétitif, quoi. Donc là, vous voyez, on commence à rentrer dans le dur. Mais attendez, c'est pas fini. Ensuite, messieurs les développeurs, bon, j'ai une annonce pour vous, hein. Il y a deux types de jeux sur le marché mobile. Tu as les jeux grand public, où tu as quelques joueurs qui vont cracher un maximum de pognon, et c'est eux qui vont faire vivre ton jeu. Et tu as les jeux hardcore, où la majorité de tes joueurs vont cracher du pognon, mais par contre, des joueurs, il n'y en aura pas beaucoup. Bon, in fine, vous aurez compris, hein, ça revient à peu près à la même chose, à savoir qu'on a une minorité de gens qui va cracher un maximum de pognon. C'est tout à fait un modèle économique, ça, hein, n'est-ce pas ? Dans les deux cas. Et c'est là qu'on arrive à la partie la plus savoureuse. Il y a quand même un problème. Tout ce qu'on vous a expliqué, là, ça ne marche pas si vous laissez autant de réfléchir. Parce que votre cerveau, il fonctionne d'une manière particulière. Il y a le mode instinctif. Par exemple, t'as un verre qui tombe, tu le rattrapes. Et il y a le cortex où tu vas te mettre à réfléchir à un problème. Il faut que je choisisse une assurance pour ma baraque. Quelle est l'assurance la plus avantageuse? Je compare les prix, etc.
Et ça, c'est pas bon dans les jeux free-to-play.
Exactement, mon cher ETH, tu as tout compris. C'est-à-dire que il faut que ce soit l'instinct qui parle. Il faut que la carte bleue, elle sorte de manière automatique. Chac. Et donc, pour que la carte bleue, elle sorte comme ça, hein, c'est pas compliqué. Il faut faire en sorte que le joueur n'ait pas le temps de réfléchir. Par exemple, tu mets un deal sur un temps limité. Offre exceptionnelle, vous avez une minute. Dans une minute, l'offre, elle est finie. Est-ce que vous achetez? Hein? Est-ce que tu veux acheter? Est-ce que tu veux acheter? Hein? Tu veux acheter? Tu veux acheter? Hein? Hein? Attention, l'offre, elle est bientôt finie. Tu veux acheter? Hein? Et là, le joueur, il n'a pas le temps de réfléchir. Et pour peu qu'il y ait entré dans la spirale que je vous ai expliqué juste avant, vous vous rappelez la meçon, tout ça, eh ben, ça y est, il est déjà habitué à payer. Donc, il va sortir la carte bleue. C'est sympathique, tout ça. Hein? C'est pas fini. Attendez. Ce qui est encore mieux, plutôt que de faire miroiter aux gens des choses qu'ils pourraient avoir, ce qui est encore mieux pour leur faire cracher du pognon, c'est de leur faire miroiter le fait qu'ils vont perdre des choses qu'ils ont déjà. Imaginons par exemple, je sais pas, un 6 milliards hack and slash sur mobile, où tu crèves, t'es en mode hardcore, même pas de mode hardcore, tiens, c'est un hack and slash bien hardcore de base, avec une communauté bien hardcore, et si tu crèves, si tu sors pas la carte bleue, tu vas perdre tous tes items. Et ben là, le joueur, messieurs, dames, il aura beaucoup plus de facilité à sortir sa carte bleue parce que c'est un réflexe naturel chez l'être humain. L'être humain a une hantise de perdre ce qu'il a déjà. Si tu lui fais croire qu'il va perdre un truc, alors là, ça va être la panique, il va même pas réfléchir, il va tout faire pour le garder, quoi.
Et ça, c'est vrai, ça, je peux même en témoigner, ça.
Mais bon, c'est pas tout, hein, parce qu'il y a quand même plein de conseils, genre... exploiter l'affect que les gens ont pour les choses qu'ils ont fait par eux-mêmes. Il cite l'exemple d'IKEA, tu vois. IKEA, il te veut vendre des meubles de merde. Mais ces meubles de merde, tu les aimes bien parce que c'est toi qui les as montés, en fait. Et comme, tu sais, t'as minimal dans le cambouis, etc., il y a un affect qui se crée avec ce truc que t'as construit toi-même. Donc, pour peu que tu fasses un jeu où le mec, il en a bien chié, par exemple, pour construire sa cité, hein, où tu l'as bien fait bosser comme un malade, tu l'as fait trimer pour qu'il arrive là où il en est, il va avoir du mal à quitter ton jeu. Et puis, il y a autre chose. Comment est-ce qu'on fait pour fixer un prix dans un jeu? Comment on fait pour faire cracher un maximum de pognon à quelqu'un? Tu vas faire en sorte de lui afficher un prix totalement délirant, que tu sais qu'il ne va pas payer. Et derrière, tu vas lui faire une offre moins 80%. Et là, il va se dire, cool, un super deal. Pourquoi? Parce que le joueur, il a tout simplement pas de point de référence, tu vois. On n'est pas sur Internet où, quand tu vas acheter ton four à micro-ondes, tu compares les prix et voilà. Non, non, ça marche pas comme ça. T'es dans un jeu qui a sa propre économie, tu sais pas ce que ça vaut. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te fies au premier prix qu'on va t'afficher. Alors qu'en fait, le vrai prix, c'est quoi? C'est le prix en promo. Sauf que quand tu vas voir le prix en promo, tu vas dire, intéressant. Et tu vas acheter. Alors que c'est une arnaque, hein, mais tu vas acheter quand même. Je finis rapidement, hein. Il y a d'autres choses qui vous rappelleront Fortnite, par exemple la pression sociale. La pression sociale, ça c'est une mécanique très bien parce qu'on est des mammifères, vous voyez, on a tendance à suivre la meute, quoi, si vous voulez. C'est bien par exemple de faire croire aux gens que la norme c'est de payer sur les free-to-play. Parce que si les gens savaient que sur les free-to-play, ben la norme c'est de pas payer, ben ils paieraient pas, quoi. Faites bien en sorte de faire croire aux gens que la norme c'est de payer. Si les gens savent que la majorité des gens ne payent pas, ils ne paieront pas. C'est du poison. Je cite un texto. Ah oui, et puis d'ailleurs, toujours dans la pression sociale, hein, faire en sorte que les gens puissent se vanter d'avoir chopé des trucs. Genre, t'as un item méga rare, tu vois, t'as un message automatique qui est envoyé à tous les joueurs de ton clan pour leur dire « un tel a chopé tel item méga rare ». Et là, ça donne envie aux autres joueurs d'aller dépenser de l'argent. Enfin, on va abréger. L'objectif, dans un free-to-play, c'est de manipuler les gens. Ce mec explique pendant à peu près 20 minutes comment on fait. Et c'est assez édifiant parce que à chaque fois qu'il a la possibilité de faire le bon choix, il fait le mauvais. Il dit à un moment donné, regardez, il y a 4 types de façons de progresser dans un jeu. Le skill, la chance, le grind, la carte bleue. Le joueur lambda, il vous dirait c'est quoi le plus intéressant. Il vous dirait le skill, évidemment. Mais lui, non, non, non. Ça, c'est de la merde, le skill. Moi, j'ai fait cette erreur, vous voyez, j'ai fait un jeu à skill. Ça rapporte pas assez d'argent, c'est pas intéressant. Le grind et la carte bleue, par contre, moi, à votre place, j'étudierai le sujet. C'est intéressant. Le grind, en plus, ça ralentit les joueurs, etc. Ça les pousse à sortir la carte bleue, donc c'est un combo qui va bien ensemble, vous voyez. Tout ça pour dire que l'objectif du free-to-play, c'est de vous retirer du pognon, et si on vous dit le contraire, c'est qu'on vous prend pour un con. Voilà, merci.
C'est un joli slogan.
C'est
pour
beau.
Conclure.
Morwen.
Ouais, mais je pense que c'est des propos qui sont intéressants à mettre en perspective avec ce dont on parlait il y a deux semaines, quand les représentants d'Epic Games et d'Electronic Arts sont allés parler aux députés anglais, qui leur demandaient « Non mais c'est pas possible, vous avez des métriques pour mesurer le l'attirance de vos jeux auprès de vos joueurs. » Et les gens disaient « Non, non, mais pas du tout, pas du tout. » Alors quand on voit ça... Excuse-moi, mais j'ai quand même envie de pas spécialement vous croire.
Non, mais en plus, la vidéo, t'as envie de la prendre, l'envoyer au député direct, tu vois, voilà.
Non, mais voilà, on le sait, le cœur de ces jeux-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous sucez le portefeuille. Peu importe ce que vous faites, quand vous lancez ce type de jeu-là, ces jeux-là vont pas arrêter de vous envoyer des signaux de fumée, de lumière, de mail, de tout ce que vous voulez, de notifications, pour vous dire « Eh les gars, c'est intéressant de sortir votre carte bleue ». Même des jeux auxquels les gens ont massivement joué. Regarde Pokémon Go à l'époque, quand ils sont lancés. « Ouais, c'est le lancement, viens, tu peux acheter plus de pièces que t'en aurais d'habitude dans la boutique, parce que c'est le lancement, vas-y, t'as une journée pour te décider, et puis après, bon,
voilà. » Rappel, proposer un super bon deal.
Ouais.
Critère numéro 1 rempli. Proposer un deal en temps limité pour que le joueur n'ait pas le temps de réfléchir. Critère numéro 2.
C'est ça. Et puis, au bout d'un moment, bah, le grind. Effectivement, si tu dis, moi, j'en veux pas de ces trucs-là, je vais jouer pur free-to-play, bah ouais, mais tu grindes. Et au bout d'un moment, c'est relou. Alors, soit t'achètes, soit t'arrêtes. Mais, en fait, il y a pas d'entre-deux.
Et le problème, c'est que comme tu t'es investi, critère numéro 3, ouais, t'as du mal à lâcher.
Ouais, ouais,
parce que t'as pas eu de perdre ce que tu possédais, entre guillemets.
Ouais. C'est de la drogue méticuleusement agencée.
Voilà.
Ils savent exactement ce qu'ils font. Alors, ça porte des noms, hein. Ça, c'est, il y a des postes très, très spécifiques dans les studios de jeux vidéo dont l'objectif, c'est ça. Tu es ingénieur en monétisation. Je sais plus exactement ce que c'est le terme. Mais ton objectif à toi, c'est de déterminer quels sont les paywalls derrière ton jeu et quels sont les meilleurs moyens de les optimiser pour que les gens crachent le plus de thunes possible.
Alors après, attention, c'est un métier qui peut être tout à fait réglo, dans le sens où, effectivement, l'objectif, c'est de faire dépenser de l'argent, mais il peut y avoir une éthique derrière, si tu veux. Là où ça commence à poser problème, n'est-ce pas, TH, c'est à partir du moment où, finalement, on dit, non, mais en fait, vous savez, les limites, c'est pas intéressant, ça va pas assez, quoi.
Bien sûr, bah, après, enfin, ça, c'est le problème qu'il y a partout, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de garde-fou, on va toujours arriver à ces dérives-là. Et quand on voit cette conférence, en fait, bah, ça fait peur, mais en même temps, c'est dans le monde un peu dans lequel on vit. Tu vois ça dans la vie tous les jours, quand tu vas faire tes courses au supermarché, t'as toujours des promotions exclusives ce jour-ci, mais tu vas revenir le lendemain, il y aura une nouvelle promotion sur un autre produit. Ils ont juste repris des choses qui existaient déjà dans le monde réel, mais là, ils les ont poussées à des curseurs tellement élevés, dans le cadre de cette conférence-là, pour escroquer les gens, parce que, comme tu l'as dit, bien sûr, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, il y a des gens qui font du free-to-play de manière très correcte, vu que le jeu est free-to-play, c'est normal qu'ils veulent gagner de l'argent, il n'y a pas de souci avec ça, mais par contre, on parlait tout à l'heure des gens qui n'ont pas envie de perdre des choses, même si ça reste du dématérialisé, en final, moi je vais vous donner juste un exemple, j'ai ma PS3 qui faisait un bruit monstrueux, et du coup, j'ai demandé à un ami à moi qui avait une PS3 qui n'utilisait plus, de me la passer. Mais le problème, c'est que j'ai changé de disque dur, et du coup, j'ai dû télécharger tous les jeux que j'avais en dématérialisé sur la PlayStation 3. Et ça met beaucoup de temps. Et du coup, je me suis dit, putain, ça me fait chier. Et même si je sais que je vais pas rejouer à ces jeux, bah, ça me fait chier de les perdre. Et du coup, je me dis, bah, je vais quand même les télécharger parce que je les ai payés à un moment. Et du coup, je veux les avoir alors que c'est juste des données numériques. Mais j'ai pas envie de les perdre quand même. Alors que même, ça se trouve, je vais jamais y rejouer de toute ma vie.
Transposer ça à un jeu vidéo, hein, où tu as investi des centaines d'heures et pour le coup, t'es encore dedans.
Bien sûr.
Bah, ça fait chier, quoi.
Exactement.
Morane.
Encore une fois, je reviens sur Pokémon Go. C'est pas étonnant que y ait eu énormément d'achats sur ces jeux-là. C'est aussi lié au fait que le développeur va brider certaines parties du jeu. Typiquement, ta capacité de stockage. Au bout d'un moment, t'es content, t'attrapes tous tes ratatas, tes trucs, tes machins, ben t'as plus de place dans le stockage. Alors évidemment, t'en supprimes, mais au bout d'un moment, ben t'as tout supprimé. Et si t'es collectionneur et que t'en veux, tu veux les 300 par exemple qui sont disponibles, mais que t'as 150 de stockage, tu fais comment ? Ben soit tu l'achètes avec la monnaie in-game que t'as payée, soit avec celle que t'as grindée, mais c'est chiant. Du coup, qu'est-ce que tu fais ? Ben t'achètes. Et voilà, et t'arrives dans la mécanique de cercle vicieux, c'est t'as payé, bah du coup tu continues à jouer, et tu continues à payer. Donc c'est extrêmement vicieux ces trucs-là.
Et pour appuyer ce que tu dis, hein, pour ceux qui auraient encore un doute sur le fait que ces choix de monétisation auraient un impact sur le game design, il y a quelque chose de très simple que ce monsieur dit, et qui est une règle selon lui essentielle, je cite... Faire en sorte que votre boucle de gameplay passe systématiquement par le magasin du jeu.
Bah là, ça va tout dire. Je suis désolé.
Ah oui,
voilà. Quand on fait un free-to-play, ou qu'en tout cas, on design la monétisation de son jeu autour de ça, parce que c'est encore plus fabuleux avec les AAA maintenant, c'est-à-dire que non seulement ils sont pas free-to-play, mais en plus ils ont les mécaniques de free-to-play. Donc c'est absolument génial. Quand on design un jeu dans cette optique-là, vu que on design le jeu pour que tu craches la carte bleue, eh bien, il faut faire en sorte de t'inciter très fortement à le faire. Voilà.
Ouais, non, mais je veux dire, c'est pas pour rien que tous ces jeux-là, ils ont des monnaies in-game. Ces monnaies-là, alors certes, tu les gagnes un petit peu en jeu, mais quand tu veux les utiliser, ces monnaies en jeu que tu n'as pas payées, du coup, où est-ce que tu vas les dépenser ? Ben, c'est dans la boutique. Et dans la boutique, c'est là, en fait, que le jeu va se dire « Ah tiens, ça y est, il entre dans ma boutique, qu'est-ce que je fais ?» Alors, je regarde, est-ce qu'il paye ? Ok, il paye qu'avec des trucs free-to-play. Ok, bah la prochaine fois qu'il reviendra dépenser ses trucs free-to-play, je lui mettrai peut-être une offre. Et c'est comme ça que le joueur se met à côtoyer les choses que tu peux acheter avec des espèces sonnantes et trébuchantes. À force de revenir, bah il va se dire « Ah tiens, ça, ça a baissé de prix. Ah oui, mais attends, dis donc, il y a une sacrée offre en ce moment. Ah oui, et puis c'est limité sur 3 heures. » Et c'est hyper malin.
Et combiné à tout ce qu'on a décrit tout à l'heure, l'encre, tout ça, le fait de mettre un prix super haut pour... D'ailleurs, ça dit en passant, je me suis rendu compte de trucs sur Warframe, hein, grâce à ça, hein, parce que c'est exactement comme ça que fonctionne Warframe sur certains items, etc. Donc voilà. ATH.
Oui, alors pour rebondir sur ce que tu dis sur Warframe à l'instant, là, c'est normal, entre guillemets, dans les jeux free-to-play, pour que les développeurs se rémunèrent, comme j'ai dit, ça va dépendre du curseur.
Je dis pas qu'il est abusif, le curseur, attention. Warframe, c'est un des rares jeux où les développeurs ont dit « Non, mais en fait, vous savez, on a retiré ce truc-là parce que ça rapportait trop d'argent. » Je pense que ces gens n'ont pas tout à fait la même optique que le monsieur qui a fait cette présentation. Voilà.
Mais en fait, c'est-à-dire que d'un même projet business plan sur un jeu, ça peut être les mêmes projets, mais juste les curseurs vont être différents, du coup il y en a un qui va être bon et l'autre qui va être mauvais, pour simplifier la chose. Et quand tu réfléchis en fait à tout ce qui a été dit dans ces méthodes, bah là t'as aussi cet aspect, tu explores les côtés un petit peu plus sombres de l'être humain, à partir du moment où tu vas sortir la carte bleue, rentrer le code, les fameux chiffres magiques, si t'es pas prudent et que tu vas pas la supprimer toi-même dans les options, et des fois c'est genre limite caché, tu vois, donc t'es obligé d'aller voir un tuto comment supprimer carte bleue sur tel ou tel jeu, ou tel service... Quand tu vas y retourner la prochaine fois sur le store, il va dire « Oui, voilà, la super promotion, moins 90%, payez avec votre carte qui se termine par ce numéro-là. » Et là, tu fais « Bah oui. »
Soit dit en passant, c'est exactement ce que fait Amazon. Hein.
Bien sûr.
Mais... avec son paiement en un clic, oui. T'as même plus besoin d'en
mais moi,
de ta carte
à chaque fois
bleue,
que je vais sur Amazon, je supprime toujours ma carte bleue. Je ne sauvegarde jamais ma carte, que ce soit sur l'Xbox Live ou sur le PSN. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai fait un achat, je vais dans mes paramètres d'identifiant, par exemple, et je supprime toujours. Comme ça, au moins, si j'ai envie de faire un coup foireux, de dépenser beaucoup trop d'argent, et bah, il y aura ce petit moment de réflexion, tu vois, je peux encore faire machine arrière.
Ça peut sauver des vies, hein, ce moment de réflexion.
Bien sûr, mais non, mais moi, ça, tu sais que plusieurs fois, je me suis dit, attends, je suis en train d'entrer le code, et au dernier moment, j'ai fait, non, mais genre, qu'est-ce que je suis en train de faire? Genre, 200€ juste pour du jeu vidéo, mais c'est pas possible. Et tu vois, genre, je me dis que si ma carte bleue, à ce moment-là, aurait été rentrée, sauvegardée et tout, bah, j'aurais pu faire une connerie qu'aujourd'hui, tu vois, je serais en limite en train de regretter, quoi. Et c'est ça qui est fort, en fait. T'as rentré la carte bleue, mais c'est fini. En fait, pour eux, ils ont gagné.
C'est ça.
Et ça, c'est un truc... bah voilà, en fait, il faut se méfier, surtout auprès des populations les plus jeunes, parce qu'en général, ils n'ont pas de compte bancaire, ou s'ils ont un compte, c'est juste un compte où ils déposent de l'argent. Et du coup, bah ils utilisent l'argent de papa, maman ou bien des grands-parents. Et eux, ils voient pas l'argent qu'ils dépensent, parce que pour eux, c'est juste des données numériques, en fait. Parce que tu dis, ouais, mais j'ai acheté une arme sur Fortnite, par exemple. Bah ok, t'as acheté une arme sur Fortnite, mais pour toi, ça t'a coûté 2€. Mais si quand tu as que 1000 au mois, t'as peut-être dépensé 25-30€. Sur un mois, ça va, mais imagine tu fais ça tous les mois. Genre, sur 10 mois, t'as dépensé, je dis un exemple, mais 20€ sur Fortnite. Bah, le jeu, il te revient à 200€, en fait.
Oui, mais puis même, Les jeunes comme ça, tu sais, ils prennent facilement des habitudes. Tu vois. Et si bien déjà sûr, à cet âge-là, tu commences les habituer à rentrer le code de la carte bleue, voilà.
Et surtout qu'ils n'ont pas la valeur de l'argent, en fait, à cet âge-là. C'est ça qui est terrible, en fait. Ouais. Et j'ai peur, en fait, pour le jeu vidéo de demain, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien les jeux qui sont terminés. J'aime bien avoir un jeu avec un début, une fin. Il va pas y avoir des choses qui vont venir gâcher mon expérience ou bien la ralentir de façon inutile parce que j'ai pas payé d'argent ou j'ai pas envie de dépenser. Dans les jeux vidéo, comme on le voit aujourd'hui, avec les triple A que tu payes et que t'as des loot box à l'intérieur. Mais là, c'est la double enculerie, tu vois. Là, c'est ça, c'est le combo final, tu vois. Genre, tu dépenses, mais tu sais pas vraiment quand ça va s'arrêter. Parce que si le jeu cartonne et dure encore 4-5 ans, bah, tu vas toujours sortir de l'argent. Et ça peut chiffrer très vite. Et c'est ça qui me fait peur, en fait. Parce que je me dis, il y a des choses qui sont passées aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo qui seraient jamais passées auparavant. Et j'ai pas envie que, en fait, de plus en plus de gens prennent cette porte-là. Heureusement qu'il y a eu des pays qui sont intervenus pour justement stopper ces genres de choses-là. Mais, moi, je suis pas sûr que demain, il y a pas des pratiques plus ou moins fumeuses qui vont surgir pour enfumer les joueurs. Et le temps que ça remonte aux commissions, etc., ça peut prendre du temps. Donc, voilà, il faut rester toujours très méfiant.
Bon, à part ça, c'est comme des Kinder Surprise, hein. Bon, messieurs, je vous propose qu'on arrête là pour cette semaine.
Yes.
C'est même mieux que les Kinder Surprise parce que ça fait pas grossir.
Eh oui. Bon, argument commercial. En tout cas, merci à Herman qui m'a donné cette idée parce que Herman, en réaction de notre dernier podcast, disait oui, il faudrait faire de la pub sur tous ces problèmes, etc. Je me suis dit, ce serait une bonne idée de laisser parler un professionnel de l'enculade. Tu vois, c'est... Bon. Allez, ciao les gens.
Salut à tous.
Salut et jouez bien. Et surtout, rafraîchissez-vous, quoi.